Prophétie et prescience. Comment les soumettre à l'examen face aux questions restées sans réponse? Par exemple, dans quelle mesure la vague, l'image-vision ainsi que la désignait Mouad'dib, constitue-t-elle une prédiction véritable et dans quelle mesure le prophète façonne-t-il l'avenir afin qu'il corresponde à la prophétie? Et qu'en est-il des harmoniques inhérents à l'acte de prophétie? Le prophète voit-il l'avenir ou seulement une ligne de rupture, une faille, un clivage dont il peut venir à bout par des mots, des décisions, ainsi qu'un tailleur de diamants façonnant une gemme d'un coup de son outil? Réflexion personnelle sur Mouad'dib par la princesse Irulane.
Prends l'euro, avait lancé l'homme dans la nuit.
Et Paul, repoussant la peur, regarda sa mère. Ses yeux avertis lui apprirent qu'elle était prête au combat, que ses muscles attendaient le signal.
« Il serait regrettable que nous ayons à vous détruire de nos mains, » dit la voix au-dessus d'eux.
« C'est celui qui a parlé en premier, » se dit Jessica. « Ils sont au moins deux, l'un est sur notre droite, l'autre sur notre gauche. »«
Signoro robosa sucares, in mange la pshagavas doime kemabas. » Nabeslas lele par robas.
C'était celui de droite. Il criait en direction du bassin. Les mots, pour Paul, n'avaient aucun sens, mais l'éducation Bene Gesserit de Jessica lui fit reconnaître la langue du Tchakopsa. C'était l'une des anciennes langues de chasse, et l'homme au-dessus d'eux venait de dire que, peut-être, c'étaient là les étrangers qu'il cherchait. Dans le silence qui suivit l'appel, la deuxième lune se leva, comme un visage rond, d'ivoire pâle et bleu, penché sur le bassin entre les rochers, brillant, curieux. Puis, entre les rochers, il y eut des bruits furtifs. Au-dessus, de toutes parts, mouvement d'ombre dans le clair de lune, silhouette glissant hors de l'obscurité. Une troupe entière, se dit Paul, avec un serrement de cœur. Un homme de haute taille, au burnous maculé, s'avança vers Jessica. Il avait rejeté le voile de son visage pour se faire entendre clairement. La lumière pâle de la lune révélait une barbe épaisse, mais son visage et ses yeux demeuraient dissimulés dans l'ombre du capuchon.
« Qui êtes-vous? Des djinns ou des humains ?» demanda-t-il.
Il raillait, se dit Jessica. Elle le lisait dans sa voix, et elle éprouva un faible espoir. Cette voix était celle d'un chef. C'était la première qui s'était élevée dans la nuit.
Des humains, je pense, dit l'homme.
Jessica sentait, plus qu'elle ne la distinguait, la lame cachée dans un repli de la robe. Un bref instant, elle eut le regret amer de leur bouclier.
Vous parlez, peut-être? Demanda l'homme.
Jessica rassembla toute l'arrogance royale dans son maintien et dans sa voix. Il était urgent de répondre à cet homme. Pourtant, elle ne l'avait pas encore assez entendu pour enregistrer ses connaissances, ses faiblesses. « Qui a surgi de la nuit comme un assassin ? » demanda-t-elle. La tête encapuchonnée pivota soudain, révélant l'attention de l'homme. Puis il se détendit lentement et ce fut plus révélateur encore. Il se contrôlait. Paul s'éloigna de sa mère afin d'offrir une cible distincte et de disposer d'un champ suffisant pour une éventuelle action. La tête encapuchonnée suivit son mouvement et le visage fut esquissé par le clair de lune. Jessica vit un nez acéré, un œil brillant. Sombre pourtant, si sombre, sans le moindre blanc. Un sourcil lourd, une moustache relevée.
« Le jeune fauve est habile, » dit l'homme. « Il se peut, si vous fuyez les Harkonnen, que vous soyez les bienvenus parmi nous. Qu'en dis-tu, garçon ?»
Toutes les hypothèses possibles traversèrent l'esprit de Paul. Un piège? La vérité? Il fallait se décider immédiatement.
Pourquoi accueilleriez-vous des fugitifs? Demanda-t-il.
Un enfant qui parle et pense comme un homme.
Eh bien, pour répondre à ta question, jeune Wali, je suis celui qui ne paie pas le faï, le tribut d'eau au Harkonnen. Pour cela, ceux qui les fuient peuvent être bienvenus.
Il sait qui nous sommes, pensa Paul. Il le cache, je le sens dans sa voix.
Je suis Stilgar, le Fremen, reprit l'homme. Cela te délie-t-il la langue, garçon ?
C'est bien la même voix, songea Paul. Il se souvint de cet homme qui était venu au conseil réclamer le corps d'un ami tué par les Harkonnen.
Je te connais, Stilgar, dit-il. J'étais avec mon père au conseil, lorsque tu es venu réclamer l'eau de ton ami. Tu as emmené avec toi Duncan Idaho, l'homme de mon père, en échange.
Et Idaho nous a abandonnés pour retourner auprès du duc, dit Stilgar.
Jessica décela le dégoût dans la voix, et elle se tint prête à l'attaque.
Nous perdons notre temps, Stil,
lança l'autre voix dans les rochers.
C'est le fils du duc, répondit Stilgar. C'est certainement lui que Liette nous a demandé de retrouver.
Mais c'est un enfant, Stil.
Le duc était un homme, et ce garçon s'est servi d'un marteleur, dit Stilgar. Il a été brave en traversant ainsi dans le sillage de Shai Hulud.
Dans la voix de l'homme, Jessica lut que, déjà, il l'avait exclu de ses pensées. Avait-il prononcé la sentence ?
Nous n'avons pas le temps d'en obtenir la preuve, protesta la voix dans les rochers.
Pourtant, il pourrait être le Lihan al-Raib, dit Stilgar.
Il cherche un signe, se dit Jessica.
Mais la femme !
Jessica se prépara. Elle avait lu la mort dans ses paroles.
Oui, la femme, dit Stilgar. Et son eau.
Tu connais la loi,
dit la voix dans les rochers.
Celui qui ne peut vivre avec le désert ?
Silence, dit Stilgar. Les temps changent.
Liette a-t-il ordonné ceci ?
Tu as entendu la voix du Cielago, Jemis. Pourquoi chercher à m'influencer ?
Cielago, songea Jessica. Cela lui ouvrait bien des chemins. Cette langue était celle de l'Ilm et du Fic. Cielago désignait un petit mammifère volant, une sorte de chauve-souris. La voix du Cielago. Les Fremen avaient reçu un message d'Istrans, leur ordonnant de les rechercher, Paul et elle.
Je ne fais que te rappeler tes devoirs, ami Stilgar, reprit la voix au-dessus d'eux.
Je n'ai qu'un devoir, dit Stilgar. Assurer la force de ma tribu. Je n'ai pas besoin que quiconque me le rappelle. L'enfant homme m'intéresse. Sa chair est pleine. Il a vécu sans manquer d'eau, loin du Père Soleil. Il n'a pas les yeux de l'Ibad. Pourtant, il ne parle ni n'agit comme les débiles qui vivent dans les fonds. Non plus que son père. Pourquoi en est-il ainsi ?
Nous ne pouvons rester ainsi toute la nuit à discuter, dit la voix dans les rochers. Si une patrouille...
Je ne te le redirai pas, Jemis. Silence.
La voix se tut, mais Jessica perçut les mouvements de l'homme. Il franchissait une faille et descendait vers le fond du bassin.
La voix du Cielago laissait entendre que nous pouvions avoir quelque intérêt à vous sauver tous deux, dit Stilgar. La force de l'enfant homme me laisse discerner des possibilités. Il est jeune, il peut apprendre. Mais vous, femme ?
Il posa son regard sur Jessica. Maintenant, se dit-elle, j'ai enregistré sa voix, son schéma. D'un mot, je pourrais le dominer, mais il est puissant. Pour nous, il est plus précieux ainsi, libre, intact. Il faut attendre.
Je suis la mère de ce garçon, dit-elle. Sa force, que vous admirez, est en partie le résultat de l'éducation que je lui ai donnée.
La force d'une femme peut être sans limite, dit Stilgar. Il est certain qu'il en est ainsi pour une révérende mère.
Êtes-vous une révérende mère ?
Jessica parvint à rejeter les implications de cette question et répondit en toute franchise.
Non.
Connaissez-vous les usages du désert ?
Non.
Mais nombreux sont ceux qui considèrent mon éducation comme valable. Nous avons nos propres jugements de valeur, dit Stilgar.
Tout homme a droit à ses propres jugements.
Il est bon que vous compreniez la raison. Nous ne pouvons nous attarder ici afin de vous éprouver, femme. Comprenez-vous ? Nous ne pouvons nous embarrasser de votre ombre. Je vais prendre l'enfant homme, votre fils, et je le protégerai, l'accueillerai dans ma tribu. Mais quant à vous, femme, comprenez-vous qu'il n'y a rien de personnel en ceci ? Mais c'est la règle istisla, dans l'intérêt de tous. N'est-ce pas suffisant ?
Paul esquissa un pas en avant. « De quoi parlez-vous ? » Stilgar lui accorda un bref coup d'œil sans détourner son attention de Jessica.
« À moins que vous n'ayez été longuement entraîné depuis votre enfance à notre existence, vous risqueriez de provoquer la destruction de toute une tribu. C'est la loi. Nous ne pouvons accepter. »
Le mouvement de Jessica fut tout d'abord comme un faux pas, une chute. Ce n'était pas surprenant de la part d'une malheureuse étrangère affaiblie. C'était là une chose normale, propre à ralentir les réactions de l'adversaire. Il faut un certain temps pour interpréter une chose connue lorsque celle-ci est présentée comme inconnue. Jessica entra en action à l'instant où elle vit l'épaule droite de Stilgar s'abaisser. D'entre les plis de sa robe, il ramena une arme qu'il brandit dans sa direction. Un pivotement, un coup du tranchant de la main, un tourbillon de robe, et Jessica se retrouva appuyée au rocher, maintenant l'homme sans défense devant elle.